18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs. Aïe, aïe, on démarre cette semaine avec un enjeu qui est attendu, c'est celui de mercredi prochain. Je peux vous le dire désormais, dès maintenant, puisque nous allons faire une émission spéciale, Les Informés, en compagnie de Bilal Lenman, l'animateur donc du show de Time Sport. Eh bien, ensemble, on vous donne rendez-vous en co-animation dès mercredi prochain, 18h, jusqu'à tard dans la soirée, pour commenter, analyser, décrypter ce match attendu. L'affiche historique, l'affiche symbolique attendue, eh bien ça se passe à partir de 18h mercredi prochain en compagnie d'une co-animation avec Bilal Lenman. Le rendez-vous est à noter et à ne pas manquer. Tout de suite maintenant, je vais ouvrir l'antenne pour vous. Pendant 30-35 minutes, nous allons parler, figurez-vous, de ce match, de la fois de cette victoire. Nous allons revenir avec vous au 01 53 48 3000. Et bien justement, comment vous avez vécu? Beaucoup ont vécu un stress qui était au summum. Beaucoup ont dit que leur rythme cardiaque s'est emballé. J'ai entendu ça. Et bien venez nous le faire vivre au 01 53 48 3000 ici même pour nous dire, alors face au Portugal, comment vous l'avez vécu, mais également le match attendu face à la France. Est-ce que le rêve peut se poursuivre? Est-ce que le rêve, eh bien, peut embarquer le Maroc en finale? Affiche symbolique, parce qu'elle est aussi géopolitique. 01 53 48 3000, c'est le standard. Vous êtes ouvert. Là, maintenant, Anthony vous attend. Faites exploser, évidemment, le standard. Nous vous attendons tout de suite pour parler de tout ça. Eh bien, c'est parti, le standard est ouvert. Et puis, autre programme, vous le savez, c'est les débatteurs influenceurs tout à l'heure qui viendront commenter l'actualité. Nous parlerons de tous les sujets qui ont retenu notre attention, à la fois d'Éric Ciotti, le tout nouveau patron, eh bien, des Républicains. Nous parlerons aussi d'Éric Zemmour, qui fait cette comparaison avec le Sénégal. Il mélange tout. Il mérite une double clochette. Il dit des Français d'origine africaine, plus il nous renvoie au Sénégal. Mais s'il se comportait comme ça, et patati, et patala. Ça suffit, non? Non, mais c'est vrai! Voilà! Je crie parce que c'est eux, c'est plus fort que moi. C'est pas possible. Faut que je l'invite, Éric Zemmour. Mais je l'ai déjà invité, il m'a dit oui, mais il veut pas venir. Mon cher Éric Zemmour, faut venir! Venir en parler ici, en toute liberté d'expression. Et on parlera aussi, du quoi de neuf avec Maître Fork. Franck Sarfati tout à l'heure dans exactement 30 minutes. Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous le savez plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour commenter un petit peu d'ambiance foot. L'ambiance du foot, mais nous l'ambiance du foot. Là, c'est parti pour commenter, évidemment. Je voudrais ouvrir l'antenne 01 53 48 3000. Désormais, le standard est ouvert. Vous nous faites exploser partout en France et dans le monde. Venez exprimer des deux affiches. À la fois celles que vous avez vécues. Je sais que vous étiez très, 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 très nombreux. Un carton d'audience, notamment sur TF1. Plus de 10 millions de téléspectateurs pour l'affiche Maroc-Portugal, mais également aussi pour France, eh bien, face la France qui a gagné d'ailleurs face à l'Angleterre, avec, vous savez, figurez-vous, un pic d'audience jusqu'à 20 millions de téléspectateurs. Incroyable. Michel Taub, bonsoir.
Bonsoir, mon cher Adil, et bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
Merci d'être avec nous, mon cher Michel Taub, le patron d'Opinion Internationale, mais vous êtes également aussi éditorialiste sur les plateaux de télévision. Je voudrais, parce qu'on a échangé ce week-end, que vous revenir sur cette affiche face aux Portugais, le Maroc, le Portugal, et puis également l'affiche historique, géopolitique, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une amitié liant une histoire entre le Maroc et la France. Dites-nous tout, mon cher Michel Taub.
Bah écoutez, moi je suis très content, je trouve que c'est un match extraordinaire qu'on va vivre mercredi. Je pense effectivement que c'est un événement presque géopolitique. Le foot, c'est le sport le plus universel, la Coupe du Monde, c'est l'événement qui dans le monde emporte le plus d'adhésions et de téléspectateurs. Et cette année, bah, pour la première fois, comme vous le savez, un pays arabe, un pays africain se retrouve en demi-finale. Et il se trouve que c'est le Maroc, et il se trouve que c'est face à la France. Donc c'est vraiment fantastique. Ça va être une très très grande fête. Je trouve que, bon, j'espère évidemment que la France va gagner.
Oui.
Mais je suis sûr que ça va être un match épique. Je suis sûr que, comme ils l'ont prouvé depuis le début de la Coupe du Monde, l'équipe du Maroc va se transcender. Les joueurs vont tout donner.
Eh bien justement. Justement, Michel Thaume.
Ça va être un match très, très dur.
Ça va être un match, j'ai le sentiment, où il risque d'y avoir un peu de tension sur le terrain. Je vous dis cela parce qu'il y a un enjeu géopolitique, notamment.
Oui, de la tension. Je pense que, évidemment, qu'il y aura de la tension parce que quand vous arrivez pour la première fois dans l'histoire de votre pays en demi-finale de la Coupe du Monde, forcément, il y a de la tension. Après, le fait que le Maroc joue contre la France, c'est effectivement, c'est pas anodin. C'est certainement pas n'importe quel match. Comme vous le savez, dans l'équipe marocaine, il y a beaucoup de binationaux. Il y a certains franco-marocains. Il y a aussi des Marocains qui ont la double nationalité avec d'autres pays. Vous savez, comme vous l'avez dit d'entrée, que le Maroc et la France sont quand même très proches.
Oui.
La communauté marocaine en France est très importante. Il y a beaucoup de Français au Maroc. Donc, si vous voulez, c'est un peu... pour moi, ça va être une fête. Ça va être une fête du sport. Ça va être une fête de l'amitié franco-marocaine, de l'amitié entre la France et l'Afrique et le monde arabe. Franchement, on ne pouvait pas rêver de plus belle demi-finale. Je trouve que c'est vraiment fantastique que ça ait lieu. Le meilleur va gagner. Moi, j'espère que le meilleur, ce sera la France. Après, si c'est le Maroc... Bah, je serais quand même très très content pour les Marocains. Et là, on peut espérer une finale.
Faisons un peu de fiction, mon cher. Allons-y. Michel Thaube. Allons-y, mercredi. On est mercredi. Le match, ça y est, on est en plein dedans. Et puis le Maroc décroche une victoire inespérée, inattendue. 1-0 face à la France. Qu'est-ce qu'il risque de se passer?
D'abord, si on doit perdre, autant perdre contre le Maroc. Je trouve ça pas mal. Mais je vous dis, on va gagner, la France, on va gagner. Mais bon, voilà, si le Maroc l'emporte, eh ben, je pense qu'ils se sentiront pousser des ailes et que là, tout sera possible face peut-être à l'Argentine de Léo Messi, qui rêve lui aussi de décrocher la première Coupe du Monde de sa vie. Mais ce sera la liesse, il y aura certainement des échauffourées aussi, comme il y en a eu malheureusement à Paris sur les Champs-Élysées à la fin de soirée lors de la victoire du Maroc contre le Portugal. Mais l'essentiel, c'est que ce sera un événement de liesse, un événement de joie et de partager, encore une fois, entre deux pays qui sont très proches. Moi, je ne me cache pas, en tant qu'éditorialiste, patron d'Opinion Internationale, j'ai toujours défendu l'amitié entre la France et le Maroc. Je pense que c'est un pays très proche. Et finalement, on le voit sur les terrains de foot, puisque encore une fois, beaucoup de joueurs de l'équipe marocaine jouent en France. D'abord, oui. Beaucoup jouent en France, de très nombreux jouent en France. Vous imaginez lorsqu'ils vont revenir dans le championnat de France français,
fin
décembre, c'est la reprise du championnat. On va les voir différemment. Tous ces joueurs qui aujourd'hui sont dans l'équipe nationale vont être un petit peu des stars dans leur ville où ils jouent toute l'année. Donc ça va être super. Mais déjà mercredi, puisqu'on est, vous me disiez, imaginons qu'on soit en plein match. Je pense qu'effectivement ça va être une bataille à couteau tiré entre les deux équipes, mais ce sera dans la bonne humeur, ce sera dans le respect, ce sera voilà. Mais vous pensez que ça va être quoi le résultat, mon cher Adil?
Je ne peux pas me prononcer pour le moment. J'attends simplement de voir les choses, comment elles s'organisent. Je pourrais vous dire ça demain, tiens, mon cher Michel Thaube. Petite dernière question, avant de vous libérer et de laisser place aux auditeurs au 01 58 3000. Dites-moi, pour quelle raison, est-ce qu'on a une explication qu'aujourd'hui, le monde arabe, l'Afrique, s'accapare évidemment cette victoire en demi-finale? Ça dépasse le Maroc, n'est-ce pas, Michel Thaube?
Alors, en fait, déjà, ce qui se passe, c'est que dans le foot, il y a un rapprochement de niveau entre les meilleures équipes et les équipes qu'on disait avant moyennes. Donc, si vous voulez, c'est pas nouveau. Regardez la Croatie, ça fait deux Coupes du Monde qu'elle se retrouve en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, si vous voulez, il y a des équipes qui émergent parce qu'il n'y a plus de monopole de l'excellence pour telle ou telle nation. Regardez, l'Allemagne a été éliminée très tôt. Donc voilà. Après, les joueurs africains, que ce soit maghrébins ou d'Afrique subsaharienne, les joueurs africains, ça fait maintenant des décennies qu'ils sont dans les plus grandes équipes européennes et qui brillent dans les plus grandes équipes européennes. On pourrait citer plein de noms, mais donc, si vous voulez, quelque part, on attendait depuis longtemps qu'une équipe nationale africaine perse enfin au plus haut niveau et se retrouve en demi-finale, voire en finale. Donc quelque part, ce n'est que justice par rapport à une réalité, c'est que sur les terrains de foot de tous les clubs européens, vous avez énormément d'Africains qui jouent et qui brillent, qui font gagner les équipes. Et je ne parle même pas des binationaux. Ceux qui sont binationaux, ils sont aussi extrêmement nombreux. Donc quelque part, c'est le reflet, cette demi-finale, c'est le reflet d'une évolution très profonde du foot et du fait que c'est une réalité. Les Africains sont très très bons dans le foot et qu'ils méritaient depuis longtemps d'avoir un club qui et une équipe nationale qui perce. Eh bien, c'est le Maroc. Le Maroc est aujourd'hui l'ambassadeur de toute l'Afrique et du monde arabe. Et elle aura malheureusement face à elle la France, qui va la battre, à mon avis, 2-1. Voilà, ça va être mon pronostic.
Eh bien, vous savez quoi, comme on fait une émission...
Un but de Giroud et un but de Mbappé.
Mbappé, voilà. Si vous êtes d'accord, eh bien, vous allez intervenir mercredi dans le cadre d'une émission spéciale. On commence l'antenne et on ouvre l'antenne à partir de 18h pour une émission spéciale, évidemment, pour monter tout ça, et avant de retrouver le match et l'affiche historique France-Maroc.
Merci
Michel.
Merci à vous.
Et allez voir.
Mercredi, alors.
À mercredi, et allez voir Opinion Internationale, le média en ligne que je vous invite à aller lire, et absolument.
Merci.
À très vite. Allez, j'ouvre l'antenne. Abdoul de Valence, et ensuite après Samir de Toulouse.
Oui.
01 53 48 3000. Venez exprimer votre point de vue. Abdoul, si vous voulez bien baisser votre niveau de radio, puisque évidemment ça provoque un écho terrible. Abdoul, bonsoir.
Ah oui, bonsoir.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Abdoul?
Ah bah, je suis opérateur de ligne.
Opérateur de ligne, bienvenue. Alors on vous écoute pour à la fois ce match que vous avez vécu face aux Portugais, face au Portugal, mais également cette affiche historique, inattendue d'ailleurs, face à la France, avec ces deux pays qu'on connaît, et puis cette amitié, et puis surtout l'enjeu qui nous attend.
Franchement, en toute sincérité, tout le monde s'en d'abord, je tiens à vous remercier tout le monde pour votre émission.
Merci.
Passer un gros salam donc à tout le monde. Catégorie d'or FM et tout ce que vous faites au foot pour Jamir El Jalia et tout, donc franchement c'est gentil déjà. Et de par avant, je suis vraiment un grand admirateur de Cristiano Ronaldo, je suis dégoûté qu'il sorte en larmes quand même, on m'a été fier parce que c'est le Maroc, je suis marocain qui a gagné. En fait, c'était un petit peu équitable, et là pareil, je vais en France et tout, moi on va dire, je suis à 50-50, mais j'en suis sûr et certain et tout, moi que le Maroc va gagner 2-1. Il y a, j'espère, en toute sincérité, tu vois ce que je veux dire. Ça sera au moins, voilà, pour une fois, un pays d'Afrique qui n'arrive pas jusqu'en demi-finale, mais qui arrive vraiment à la finale tout matin. Et j'aimerais bien que ça serait la même chose pour Messi, qui sortira vraiment dégoûté. Bon, c'est un rêve, au fait. C'est vraiment un rêve que le Maroc gagne la Coupe du Monde. Je ne sais pas si tout le monde partage ça ou pas.
Et ouais. Voilà, quoi. Comment vous voyez cette affiche? Affiche exceptionnelle, d'ailleurs, entre la France et le Maroc. Un match qui risque d'être facile pour la France, pour les Mbappé, pour Giroud, pour Griezmann, ou un match qui risque d'être compliqué parce qu'il y a en face d'eux le Maroc, qui lui est habité par une niaque, par une rage de vouloir tout réussir.
C'est au-dessus de l'Atlas, c'est les lions de l'Atlas, en fait. Et donc, du coup, la chose qui arrange tout moi, en fait, donc du coup, du même côté que je joue, en fait, Mbappé joue du côté de Hakimi, donc c'est deux joueurs qui se connaissent super bien. Donc du côté d'Mbappé, je suis un petit peu rassuré, donc il va pas trop faire le fou, parce que vu qu'ils jouent dans le même club, ils se connaissent plus ou moins. Après, ce qui me fait vraiment, 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 ça serait vraiment, c'est pas un petit bidon. Ça peut partir de là, en fait. Mais Mbappé, franchement, on peut vraiment être tranquille, on va dire, à 60%, mais pas plus. Après, c'est un gros nom.
Ouais.
Un gars qui a toujours su créer des occasions, là, je suis bouleversé des matchs. À la dernière minute, ça, on le sait. Mais voilà, j'espère. Comme je vous ai dit, j'aime le Maroc, j'aime la France. J'espère que, voilà, tu le meilleur gain, comme on va dire.
Alors, votre cœur, il berce où, votre cœur? Il berce de quel côté, cher ami?
Mon cœur, il est franchement du côté du Maroc. Ouais, j'espère que ce sera.
Eh bien, merci Abdoul, on l'a perdu, Abdoul. On l'a perdu, Abdoul.
Ça sera mon heure.
Ah, il est là, ouais. Eh bien, merci Abdoul d'être intervenu, merci à vous. On va poursuivre, on va accueillir Samir de Toulouse et puis Lahsen de Montpellier. Bonsoir Samir, 0153 48 3000. Samir, qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Samir?
Moi, je suis opérateur de ligne aussi.
Aussi, tiens. Vous êtes passé le mot. On vous écoute alors.
Bah écoutez, c'est un match un peu spécial. Moi, je suis d'origine algérienne, ma femme est marocaine. Il y a une joie de fou. Par contre, on est un peu partagé entre la France et le Maroc. Oui. C'est normal. En tant qu'Algérien, je penche un petit peu pour le Maroc, en même temps pour la France. Hein. En fait, dans l'histoire, c'est que
Tout le monde est torturé, j'ai l'impression. Tout le monde est tiraillé entre vouloir la réussite du Maroc, mais également de la France. C'est top,
vous savez
incroyable.
Oui. Vous savez pourquoi, Adil? C'est pas question. On aimerait bien les Bleus, on les supporte avec tous les... En fait, comme c'est un peu spécial, un pays africain, un pays frère, un pays africain qui monte à ce niveau-là, on s'est dit, bon, la France, elle a eu deux Coupes du Monde, alors l'Afrique, vous voyez, ça, ça c'est vraiment, vraiment
l'espoir,
spécial.
L'espoir.
Pas qu'on va le voir tout le temps. Mais vraiment,
c'est affiche,
on se dit, bon, voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Même les Marocains, eux-mêmes, ils ne croient pas à ça. En fait, on s'est dit, ils sont là, il faut qu'il y ait cette Coupe du Monde. Et puis, voilà, nous, on est partagés. De toute façon, mercredi, on sera heureux, quoi qu'il arrive.
Ouais. Et puis Michel, tu parlais tout à l'heure des échauffourées, des incidents, notamment un peu partout, mais également notés sur les Champs-Élysées. On le regrette, c'est vrai, parce que la fête, ça doit être bon enfant. La fête, c'est un bon esprit, normalement.
Adil, moi-même, personnellement, franchement, même que l'Algérie, elle gagne, elle se décroche, jamais je ferai ce truc-là. Je suis contre tout ça. Moi, mes enfants sont petits, mais j'ai toujours dit, on va pas faire ça. Il y a toujours un meilleur moyen. La France, on vit en France, on aime bien cette France. Il faut qu'on la protège. Il y a toujours le meilleur moyen de d'être heureux, c'est voilà.
Ouais.
C'est pas grave. Drapeau, heureux. Mais on n'a pas besoin de faire des incidents, de tout ce qui casse, de faire le bazar. On fait peur à la France. On fait peur. Ça veut dire que les Français, ils ne nous voient pas. Quand ils ont une compétition sportive, ils ne veulent pas de nous. Mais ils ont raison.
Merci.
J'espère bien
Samir.
Que ce soit dans la bonne...
Dans la joie et la bonne humeur. Merci, oui, Samir, d'être intervenu depuis Toulouse. Juste après la pub, tiens, Lahsen. Bonsoir, Lahsen.
Oui, bonsoir. Salam alaikum.
Alaikum salam. Lahsen, ne bougez pas. Restez avec nous, justement. On vous reprend juste après la pause pub. Donc, ne bougez pas. Vous allez pouvoir nous commenter cette belle affiche. Mais également, Ismaël de Paris, 01 53 48 3000. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, on ouvre l'antenne plus que jamais, partout en France et dans le monde, je voudrais vous entendre.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Pour parler, vous savez quoi? Eh bien, tout simplement de cette affiche historique France-Maroc attendue, y compris cette émission spéciale Les Informés qui démarre mercredi prochain à mes côtés avec Bilal Nenman qui sera à mes côtés. Émission à vivre à partir de 18h. On vous fera évidemment vivre ce moment sur Beurre FM et c'est exceptionnel. Lahsen de Montpellier, on le retrouve. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lahsen?
Oui, bonjour, ça va comme? Je suis conseiller immobilier.
Bienvenue, mon cher Lahsen. Alors, comment vous l'avez vécu, ce match face aux Portugais, mais également aussi cette affiche pour mercredi prochain, et puis l'ambiance qui va avec, et puis les incidents qu'on regrette tous hein, sur les champs et d'autres, notamment. Ces petits dérapages.
Non, mais franchement, après les petits dérapages, c'est pas dramatique. Hein. Nous, la première des choses, c'est que déjà, on est très fiers de notre équipe nationale. Ensuite, il y a quelques petits jeunes, quelques petits qui foutent un peu le désastre, mais c'est pas dramatique. Nous, ce qu'on retient, c'est la qualification en demi-finale. C'est historique.
Alors, comment vous voyez cette histoire-là, cette affiche face à la France? Ça va être compliqué pour vous? Comment vous voyez les choses?
Franchement, moi, en tant que franco-marocain, c'est un rêve. C'est une affiche incroyable pour nous. France-Maroc en demi-finale d'une Coupe du Monde.
Alors, vous choisissez qui en tant que franco-marocain, justement? Le cœur, il berceau de quel côté? Compliqué, hein?
Côté.
Ça vous fait rire.
Oui,
ah, j'adore.
Ah, côté marocain, franchement, là, je suis marocain à 300%. Je suis désolé. Mais...
Ah oui, c'est comme disait un auditeur tout à l'heure, il disait effectivement, c'est une première pour l'Afrique, quoi.
Ah, mais là, on représente l'Afrique, on représente tous les Maghrébins, le monde arabe, c'est énorme. C'est, pour nous, c'est franchement, on est très contents. Tout le peuple marocain, le pays, tout le monde est sorti, les enfants, les familles, c'est la fête.
Ouais, ouais. Vous l'avez dit.
Non, franchement, on est très content, on est très content, on est très heureux. Même si on perd contre la France mercredi, on sera très heureux. Déjà, arrivé en demi-finale, il nous restera un match, il ne faut pas oublier.
Qu'on c'est historique. Hein. Oui, c'est vrai.
On peut finir sur le podium, c'est pas fini. Hein.
C'est pas fini. C'est pas fini parce qu'après, il y a un match qui, évidemment, vous place évidemment la troisième, hein, parce qu'il y a une histoire de troisième. Hein.
Oui, oui, bah, on peut finir sur le podium, on perdit qu'un. Même si on faisait quatrième, on est très très bien. Là, on est classé 11e au classement mondial FIFA. Alors, avant la Coupe du Monde, on était 22e. On gagnait 11 places. Jamais vu.
Du jamais vu. Du jamais vu, comme vous dites. Merci, Lassen.
Bon, j'espère que la fête, elle va continuer. Bah, vive le Maroc. Et vive Ouarzazate, Marrakech, Zagora.
Je vois vous. Hein. La promotion au passage, vous avez bien raison.
Voilà,
à très bientôt. Ismaël de Paris. Bonsoir, Ismaël.
Oui, bonsoir. Dites bonsoir, le plateau.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Ouais, moi, je suis de la sécurité. Et j'ai un message pour l'entraîneur marocain.
Allez-y.
Direct.
Allez-y.
Il a fait deux fois la même connerie les deux matchs derniers et, oui. Et il n'a pas des attaquants de pointe ou quoi et le mec il a le carton rouge là, comment il s'appelle je l'ai oublié
qui ça donc vous me parlez de qui de l'arbitre
je parle l'attaquant marocain là
Ziyech
non il a eu un carton rouge. Ouais, bon, je connais pas le nom, mais franchement, lui, heureusement qu'il a eu le carton rouge. Hein. Ouais. Il est scotché, le mec, et il fait rien. Il n'a pas un autre attaquant ou quoi. Il y a Sabiri, il y a des autres qui peuvent faire quelque chose.
Eh bien, écoutez.
La France, il va pas laisser faire. Mmh. Il va tout faire. Mmh. Il va tout faire. Hein. C'est le Maroc, c'est pas l'Autriche, c'est pas ça. Il va tout faire. Mmh. Bon, je souhaite qu'il. Je souhaite que le Maroc passe à la finale, c'est tout.
Bon, voilà. Bah écoutez, merci Ismaël. Merci.
Voilà, c'est mon message.
Merci à vous, 0153483000, avec grand plaisir Ismaël, à vos plaisirs. Je vais accueillir Foudia, Aix-en-Provence. Bonsoir Foudia.
Bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie ma chère Foudia?
Ben, moi je suis dans le médical.
Eh bien, bienvenue, on vous écoute alors. France-Maroc, ben, écoutez, comment voyez les choses? Je vous les annonce tous, ben, hein. Celles et ceux qui nous écoutent.
Bien, on a très bien démarré. Moi je suis marocaine, je suis française. Et voilà, c'est un très beau match.
Et alors le cœur, il berce où?
Comment?
Le cœur, il berce de quel côté?
Ben, le Maroc, bien sûr, et la France aussi. La France aussi. Que l'un ou l'autre gagne. C'est un jeu, c'est pas de la politique, c'est rien, je veux dire, c'est un jeu. Alors, autant que le Maroc gagne, parce que franchement, que le Maghreb arrive jusqu'à où il est arrivé, c'est magnifique. Qu'on soit algérien, tunisien, marocain,
sénégalais, malien, tout, mais ça dépasse le statut du Maroc, je crois que là, quand on regarde.
C'est magnifique, je trouve que c'est magnifique, vraiment, vraiment. On a fait nos preuves. Et vraiment, c'est phénoménal. Je trouve ça très beau. C'est vrai que mon cœur balance plus pour le Maroc, quand même. Mais je serai contente aussi pour la France.
Eh bien, écoutez, vous savez quoi, émission spéciale. Notez bien, Foudia. Émission spéciale, les informés. Justement, pour parler que de ça, préparez votre soirée jusqu'à 20h. 18h, aux côtés de Bilal Nedman, on sera là pour vous embarquer justement dans ce match avec tout, pronostics, commentaires, etc. Ne pas manquer à partir de 18h mercredi prochain. Super.
Voilà. Pourtant, moi, je ne suis pas tellement foot. Hein. Ce n'est pas un des sports que. Mais là, vraiment, je trouve que.
C'est beau.
C'est très bien. On fait des fêtes entre nous. Entre voisins, on se voit, on est content, on est heureux, on s'embrasse, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique, vraiment, vraiment.
Bon. Merci,
et j'espère que ça va bien se passer, que ce soit d'un côté ou de l'autre.
Oui, il faut surtout que ça se passe bien. Il ne doit pas, normalement, c'est pas normal. Ces dérapages, ces incidents, ces échauffourées, c'est la fête. La fête, c'est la place à un bon œil, bon esprit. Il faut qu'elle soit bon enfant. Il faut qu'on soit, évidemment, exemplaire pour dire que voilà.
Voilà, exemplaire.
Mais oui, mais enfin, bref, moi, ça m'échappe. Il y a des choses qui m'échappent complètement, je vous avoue que.
Ah ouais, mais c'est comme ça. On peut pas refaire les gens, on peut pas refaire. malheureusement, mais voilà, il faut que ce soit bien partagé et j'espère qu'on arrivera jusqu'au bout et bien.
Merci Foudia. Rendez-vous
à
ne pas manquer, ça se passe justement à partir de 18h mercredi prochain, émission spéciale. C'est parti, vous savez, vous êtes très nombreux à nous appeler au 01 53 48 3000. Ne quittez pas ceux qui sont en attente. Je vais vous récupérer juste après le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et c'est parti, vous savez quoi, avec maître Franck Serfati. Bonsoir maître.
Bonsoir cher Adil.
Comment ça va?
Super, en pleine forme, quand on est avec vous, tout va bien.
Eh bien écoutez, tout va bien aussi.
La bonne humeur, je suis en train, le dynamisme, ça fait plaisir. Et je vais vous parler tout à l'heure de projets dynamiques.
Eh bien allons-y, on vous écoute pour le Quoi de Neuf et votre billet d'humeur, c'est parti.
La fin de l'année, cher Adil, est souvent propice à de nouveaux projets. Et pour bien démarrer, dans quelques jours, une vingtaine de jours, l'année qui arrive, 2023... J'ai proposé ce soir à vos auditrices et auditeurs
la création d'entreprise.
La création d'entreprise. Sachant qu'en droit français, sans faire un cours trop long, exhaustif, il existe deux grandes catégories d'entreprises. L'entreprise individuelle, qu'on appelle également entreprise en nom propre, où il n'y a pas techniquement de création de personne morale. Le chef d'entreprise se superpose totalement à l'entreprise, qui est la sienne, et puis parallèlement une deuxième catégorie juridiquement distincte, l'entreprise sociétaire, la société. Dans les sociétés, on distingue, mais là aussi sans entrer dans un détail inutile ce soir, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Alors, il faut savoir si vous avez un projet entrepreneurial, qu'il existe globalement, de façon synthétique, deux grandes étapes. La phase de constitution de votre entreprise, au cours de laquelle vous aurez à choisir de la forme juridique, justement, entreprise individuelle ou entreprise sociétaire. Et dans cette deuxième catégorie, est-ce que vous allez opter pour une société de personnes, SNC, SARL, société en commandite simple, SAS, société par action simplifiée, la SASU, qui est une société par action simplifiée, actionnaire unique, ou une société de capitaux du style société anonyme ou autre. Donc, cette phase de constitution est fondamentale au début de ce projet. Choix de la forme juridique, choix des partenaires, une entreprise, un contrat d'association est comme un mariage, il ne faut pas se tromper. Ensuite, fixation d'un siège social, définition d'une activité qu'on appelle techniquement l'objet statutaire, fixation également d'un capital social, est-ce que l'activité va être fortement capitalistique ou pas, est-ce qu'on rachète un fonds de commerce, est-ce qu'on rachète un bail, est-ce qu'on crée ex nihilo, toutes ces étapes, toutes ces questions qui se posent aux porteurs de projets sont intégrées dans ce que j'appelle la phase de constitution, au terme de laquelle une deuxième et dernière étape arrive pour donner vie à votre entreprise, encore une fois, quelle que soit la forme, parce que la forme juridique n'impacte pas ses formalités, le déroulement des formalités. À ce moment-là, il faudra porter à la connaissance des tiers la création de l'entreprise par une étape essentielle qu'on appelle l'immatriculation, soit au registre du commerce et des sociétés, RCS, sachant qu'il existe un RCS par département avec un critère de compétence territoriale, soit à la Chambre des métiers si l'activité est artisanale. Donc, ce n'est pas très compliqué. La Chambre des métiers est compétente pour une activité artisanale et le RCS est compétent matériellement pour une activité commerciale. Alors, quelle est la grande différence entre une activité commerciale et une activité artisanale? L'acte de commerce est défini par l'article 632, si ma mémoire est bonne, du Code de commerce, dès lors où il y a une opération d'achat pour revendre, globalement, alors que l'activité artisanale se définit par un travail de la main. Travail de la main, exemple coiffeur, électricien, plombier, pâtissier.
Et ils sont plusieurs, ils sont très nombreux.
Dès lors où le travail de la main est déterminant dans l'activité économique. L'activité devient artisanale. C'est une question de forme. En tout cas, ça ne doit pas changer la dynamique entrepreneuriale qui a été à l'origine et qui a présidé à cette volonté d'impulser cette dynamique ce soir avec vos auditrices et vos auditeurs. Je vous souhaite, avec quelques jours d'avance, une très très bonne fin d'année, une bonne santé pour chacun d'entre vous. Et puis surtout, vous le disiez, Adil, avec la gentillesse et l'intelligence qu'on vous connaît, un bon match mercredi avec beaucoup d'esprit sportif et de fraternité, parce que finalement, il n'y a que cela qui compte.
Absolument, il n'y a que cela qui compte. Merci, Maître Franck Serfati. À la semaine prochaine.
Merci
sans faute
vous.
Pour un autre
à
billet
la
d'humeur.
Prochaine.
Absolument, je vais aller direction Colombes où je vais accueillir, eh bien, vous le savez, Samira. Bonsoir, Samira.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Samira. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Samira ?
Travail au Crédit Mutuel CIC, puis gestionnaire de contrat.
Vous pouvez nous dire banquier. La pub au passage, elle nous a fait une pub. CIC.
Ah, je voulais pas le dire, j'ai oublié.
Non, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Samira, on vous écoute. Bienvenue, évidemment, alors, pour le match.
Ah ben moi, pour le match, je suis ravie, étant d'origine marocaine. Jamais un pays nord-africain a été aussi haut, on va dire, dans cette finale. On est en demi-finale bientôt. Donc moi, je suis super contente et je suis à 100% derrière le Maroc, même si je suis née en France, même si je vis en France. Sachant que même si le Maroc gagne, je serai heureuse. Si la France gagne, ça fera peut-être la troisième étoile, on ne sait pas encore. Mais voilà, moi, en tout cas, moi, je suis à fond, à 200% pour le Maroc. Voilà, parce qu'on pose souvent la question, on me dit alors, tu vas être quoi pour... Voilà, moi, je ne peux pas dire, même si je suis binationale, je ne peux pas dire que je vais être pour la France. Le Maroc, il n'a jamais été là où il est, donc aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir vivre ce moment-là en 2022, voilà, être présente et puis savourer ce moment-là. J'allais au Maroc il y a 3 semaines, c'était de la folie. Et par contre, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est les débordements qu'il y a. Des vidéos, la famille m'envoie de Casa et autres, des vidéos de comment les gens fêtent cette histoire au Maroc, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe ici en France. On nous dit tout simplement, on nous catégorise comme des sauvages. On nous dit on est des sauvages, mais vraiment, les immigrés, parce qu'on nous appelle comme ça, les immigriers, vous êtes des sauvages. Voilà, c'est comme ça qu'on nous voit. Et c'est dommage, hein, vraiment, c'est vraiment dommage, parce que voilà, ils nous donnent une mauvaise image, alors que c'est pas vrai. Malheureusement, il y a un tout petit groupe d'individus.
Vous avez raison. Vous avez rendu compte, une minorité qui vient généraliser, banaliser tout ça auprès, évidemment, de toutes celles et ceux. Parce que la vérité, c'est quoi ? Comme disait Michel Taub tout à l'heure, c'est que la majorité sont dans un esprit festif, tout à fait, bon esprit, quoi, positif. C'est vrai, Samira. C'est vrai.
Exactement. Ouais,
bon,
c'est vraiment
Samira.
Sympa.
Merci.
Voilà. Donc, en tout cas, pour mon pronostic, c'est 2 pour le Maroc et 1 pour la France. Voilà.
Waouh. Ah oui.
Voilà.
Ah
2-1.
Oui. Oula.
Ah voilà.
Oula.
J'y vais à fond. 2-1. Et je sais que les Marocains, ils vont sortir les crocs parce qu'ils ont faim. Et ça va être un super match. Un beau match.
Bon,
voilà.
Bah,
moi, je pense que ça va être un beau match. Mais donc, écoutez, on se rappellera, Adil.
On se rappellera mercredi, justement, pour se parler.
Voilà.
Merci, Samira. Dans une poignée de minutes, on va accueillir Mehdi Abdelrazak, pardonnez-moi d'avoir évidemment écorché son prénom. Zoubir, 0153483000, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h45, c'est parti, vous le savez, on va continuer d'accueillir, vous accueillir, parce que vous êtes nombreux justement à observer cette affiche exceptionnelle. Mais extrêmement nombreux, hein. C'est vrai, il faut qu'on se le dise. Un peu d'ambiance foot, c'est bien. Allez, Mehdi du 95, quelle ville, Mehdi ? Bonsoir,
oui,
Mehdi.
Oui, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes de quelle ville, du 95 ?
Bah,
plaisir partagé, mon cher Mehdi.
C'est gentil, merci. Donc, Goussainville.
Goussainville, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mehdi ?
Je suis entrepreneur immobilier.
Bienvenue, on vous écoute. Alors, Zoubir.
Merci. Bon, moi, je suis content, comme tout le monde, hein, je suis d'origine marocaine. Je suis vraiment, vraiment content que le Maroc gagne. C'est un exploit, comme tout le monde. Mais moi, j'appelle aussi pour tirer un petit coup de gueule, cher ami.
Dites-nous.
Parce que lorsque j'entends des auditeurs comme la scène de Montpellier, être content, certes, ce qu'on comprend tous, dire que les débordements, c'est un petit détail. Moi, je suis pas d'accord. Je sais pas pourquoi on donne une mauvaise image de nous comme ça. Je comprends pas. On se fait harakiri. Au contraire, comme vous disiez tout à l'heure, cher monsieur, c'est un moment de joie. Je comprends pas pourquoi on va dans les rues comme ça. Et moi, j'habite une bonne partie de l'année au Maroc. J'ai suivi tous les matchs sur place. Le dernier match, j'étais en France. Au Maroc, les gens sortent leurs enfants. Ils sortent leurs femmes, leurs amis, leurs mamans. Tout le monde fait la fête dans les rues. Tout le monde est content. Et ici, je sais pas pourquoi. Et il se passe ça. Et ça, c'est mon coup de gueule. Je sais pas. J'ai envie de dire à tous ces jeunes que c'est pas une bonne image. Ils sont pas tout seuls à véhiculer cette image-là. Ils véhiculent une image qui ne plaît pas du tout. J'aimerais bien qu'il y ait une prise de conscience parce que c'est pas des comportements, qu'on a quand on est content. Je sais pas. Et en plus, on est stigmatisé pour ceux qui cherchent du boulot.
Ah bah, regardez la preuve, on ne parle que de cela dans les informations, et y compris dans les chaînes news. Encore tout à l'heure, match à haut risque, débordement, grand point d'interrogation.
Et c'est une occasion idéale à saisir.
Il manquerait plus qu'on voit à l'affiche, les sauvageons arrivent.
Exactement. Et alors que là, c'est l'occasion idéale pour leur montrer qu'on sait faire la fête, mais là, malheureusement, on va tout droit dans la direction dans laquelle ils veulent qu'on aille. Et ça me rend dingue. Alors quand j'entends
vous avez entendu Éric Zemmour ce week-end, hein?
Non, j'ai pas.
Écoutez, tout à l'heure, on va en parler. Merci, mon cher Mehdi. Merci. Ouais. Merci.
Voilà, un petit coup de gueule, s'il vous plaît, faites pas de débordement, vous mettez tout le monde dans la marmite.
Absolument. Vous avez vu ce qu'il a fait comme déclaration, Gad Elmaleh?
Non.
Vous allez écouter, avant d'accueillir Zoubir. Tiens, Anthony, le réalisateur, regardez, on a retrouvé le sonore chez nos confrères de RMC. Voilà ce qu'il dit concernant l'affiche Maroc-France. Écoutez attentivement, c'est le moins qu'on puisse dire, agréable surprise.
Alors l'enjeu, c'est de se qualifier pour la première fois en demi-finale,
voilà.
Et peut-être aussi affronter la France. Alors là, Gad,
oui.
Si c'est France-Maroc en demi-finale, écoutons un autre Marocain, écoutons ce qu'en dit Jamel Debbouze.
Je veux voir ce match, mais en même temps je l'appréhende parce que je ne saurais pas comment vivre ce moment entre la France et le Maroc. Ça serait comme si mon père jouait contre ma mère.
Comme si mon père jouait contre ma mère, voilà ce qu'il a dit à nos confrères de Beansport.
Écoutez, avec tout le respect que j'ai pour mon ami et mon collègue, je saurais comment faire. Non, je ne dis pas je saurais. Non, parce que je soutiens le Maroc, je soutiens mon pays de naissance, et justement c'est ça qui est beau. Et il faut en France. Alors là, je parle d'autre chose, mais c'est lié. Je pense finalement que la fraternité, le fameux vivre ensemble dont on parle, c'est justement ça. C'est d'être dans le même bar, ou la même maison, ou le même lieu, et chacun d'être même pour des équipes différentes et se prendre dans les bras après. C'est ça qui est beau dans le sport. Et donc, non, moi, ma mère joue pas contre mon père, ma mère.
Chacun reste bien à la maison.
Voilà, et si je suis pas pour le Maroc, ma mère et mon père vont venir me. Non, je comprends ce qu'ils disent, et peut-être que ça fait écho à son histoire personnelle, mais non, moi je suis pour le Maroc.
Vous les voyez aller jusqu'en finale, les Marocains, là?
Ah oui, totalement. Cette année, je les vois vraiment aller jusqu'en finale. Je me fais rironner par mes amis qui sont des experts du foot et qui m'opposent des théories et des analyses, mais moi je les vois totalement accéder à la finale de la Coupe du Monde.
Voilà, l'humoriste Gad Elmaleh qu'on tentera de joindre, y compris pour l'émission spéciale mercredi prochain. Mais lui, il m'a dit, vous avez vu, hein, il voit carrément le Maroc à l'affiche de la finale.
Ben oui, pourquoi pas se retrouver nous aussi à rêver, à espérer. Pourquoi, hein? Pourquoi on devrait se mettre des barrières
premier pays
limitantes
africain à franchir évidemment ce cap. Merci Mehdi.
Ouais, Inch'Allah. Merci à vous.
Allez, à très bientôt, au plaisir.
À très bientôt, merci.
Zoubir, tu nous appelles du 93. Oui. Zoubir, vous nous appelez du 93. Quelle ville du 93, Zoubir?
Bonsoir, j'appelle de Saint-Denis.
Saint-Denis, qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Zoubir?
Je suis restaurateur.
Restaurateur, vous en vivez des matchs. Vous faites, vous retransmettez les matchs?
Ouais, je retransmets les matchs, ouais.
Ça doit être full.
J'ai même eu BFM qui sont venus chez nous.
Ah oui, c'est Bondy. Où? C'était où, à Bondy?
Oui.
Ah bah, on a quelqu'un de Bondy, là, avec nous.
Ouais.
Ouais. Non, mais pas vous, pas vous.
Ouais, le restaurant, il commence par un H.
Comment il s'appelle ?
Harris Café.
Aïe, 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 donc ça veut dire rendez-vous à ne pas manquer mercredi prochain.
Oui. Bon, bah, moi, j'appelle pour un grand coup de gueule.
Allez-y. C'est quoi votre coup de gueule, ça, Zoubir ?
Moi, pour moi, sincèrement, que de meilleurs gagnent déjà. Je suis ni pour la France ni pour le Maroc. Je suis marocain.
Oui.
Mais par contre, le grand coup de gueule, c'est que l'image qui. Tout le monde dit, oui, les Marocains font le bordel. C'est pas les Marocains seuls. Moi, j'autorise la préfecture de Paris de mettre les noms des gens qu'ils interpellent.
Mmh.
Parce que je donnais une sale image à un peuple. Alors que, après, je dis pas qu'il y a pas que. Je dis pas que les Marocains, ils font rien. C'est comme dès que la France gagne la Coupe du Monde, ça va tout casser sur les champs. C'est les Français ?
Ah, ouais. Oui.
Ah,
oui.
Ah, alors, moi, je suis un coup. Il faut être sincère. Mehdi a dit quelque chose de très intéressant. La scène aussi, là, bon, ce qu'il a dit, c'était un peu vague, mais j'ai compris. Mais par contre, faut pas nous coller une image qu'on n'a pas, quoi. Ouais. Pourquoi ils font pas comme les jours de l'an ils aiment bien mettre des pronostics sur les véhicules incendiés à l'époque. Bah, qui font la même, ils mettent les noms, prénoms des interpellés avec leur nationalité. Normal, je les autorise.
Eh bien, écoutez, s'ils veulent intervenir à l'antenne, on laissera les gens.
On nous colle une image que. Moi, j'ai été sur les champs, sincèrement, juste après, j'ai été pour voir. C'est la première fois que j'y vais. J'ai été pour voir. Il n'y a pas que truc. Hein. Je ne veux pas dire il y a un tel ou un tel ou un tel. Nous, sur Bondy, déjà, il y avait du bazar.
Moi, je vais vous dire, Zoubir, j'ai vu, on m'a envoyé justement des images où on voyait des gens alimentés, des gens de l'extrême droite alimentés, si vous voulez, comment dirais-je, sur les Champs-Élysées, alimenter la haine et alimenter la provocation pour que justement certains supporters puissent déraper. Après, attention, je prends ça avec des pincettes. Ça veut dire que quand on m'envoie ça, je regarde. Je vérifie, mais je n'ai pas encore, si vous voulez, cherché la véracité de l'information. Mais bon, voilà, je vous le dis.
Mais franchement, c'est. Après, comme j'ai dit, hein, que le meilleur gagne, dans tous les cas, on est gagnant. Que ce soit le Maroc ou la France, on est gagnant.
Absolument.
Voilà, c'est notre base. Moi, je suis né ici, je suis né à Saint-Denis.
Vous êtes comme Gad Elmaleh, alors ? Vous dites quoi ?
Ah, moi, il n'y a pas père ou mère qui joue. C'est que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne. Gad Elmaleh va plus loin. Il dit non, c'est le Maroc en finale.
Ça va, nous on est humbles, on parle pas. Pendant toute la Coupe du Monde, on n'a pas braillé comme certains. Et on a eu le résultat.
Merci Zoubir d'être intervenu. 0153 48 3000. Eh bien, le rendez-vous est noté, donc j'ai bien compris.
Vous êtes de passage.
Eh bien, écoutez, si je suis de passage, je viendrai vous faire coucou. Pourquoi pas le match ? Mais bon, je serai en direct mercredi. Émission, merci Zoubir, à très bientôt. Émission, je vous l'annonce, est spéciale, les informés, émission spéciale avec, pour monter évidemment tout cela, commentaires, pronostics, vous-même au 0153 48 3000. Et à mes côtés, Bilal Nedman, pardonnez-moi, le présentateur de Thème Sport qui sera à mes côtés. On va ouvrir l'antenne à partir des 18h pour vous faire vivre justement cette belle affiche historique ici même à partir des 18h mercredi prochain, à noter chers amis. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve avec Nabil Haït El Hakkaj, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Le responsable justement de Renaissance sur le département du 9-3, ça va ?
Tout va bien, fraîchement, mais tout va
vous
bien.
Vous voulez réagir, l'affiche Maroc-France ?
Non, que le meilleur gagne, c'est bien d'entendre des auditeurs qui disent ça.
Absolument. Et vous dites quoi, Rayed Chaibi, le président de l'association franco-tunisienne de la coopération ?
Pour mercredi,
France-Maroc, qu'est-ce que vous dites ?
Que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne. Eh bien, messieurs, c'est parti. On se retrouve dans une poignée de minutes avec justement les sujets qui ont retenu notre attention.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan.
18h56, vous continuez de nous appeler au 0153 48 3000, le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Avec Nabila Haït El Hakkaj, avec Rayed Chaibi. Nabila Haït El Hakkaj qui est le responsable de Renaissance sur le département du 93, mais également Rayed Chaibi qui est le président de l'association franco-tunisienne, de la coopération franco-tunisienne. Messieurs, tout de suite, vous savez quoi ? Eh bien, nous allons démarrer dans la continuité du sujet. Éric Zemmour, qui lui dit... Ah voilà, vous avez tout compris. Didi, il s'interroge sur le fait que s'il y ait 8 ou 9 joueurs d'origine africaine ou noire dans l'équipe de France, s'il y avait 9 blancs dans l'équipe du Sénégal, eh bien les Sénégalais s'interrogeraient. Autre déclaration, je voulais écouter ce qu'il dit sur France-Maroc. Et regardez, écoutez, Anthony, il va nous lancer le petit extrait.
Par exemple, oui. Sur les Champs-Élysées, de voir des gens qui, pour une grande majorité, pacifiquement viennent montrer leur joie que le Maroc ait gagné, ça vous pose un problème ou pas?
Attendez.
Non mais est-ce que ces images
Vous répondre. Je vais vous répondre. D'abord, ça finit en émeute. Pourquoi ça
part
en
partout
émeute
et une grande
Quand les Argentins célèbrent leur victoire, ça se finit en émeute, Benjamin Duhamel? Non. Deuxièmement, vous me posez une question, je vais vous répondre sans hésitation et sans circonvolution. J'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc, les Marocains, si à Marrakech, des milliers et des milliers de Français célébraient leur victoire, la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays, surtout le soir où la France gagne.
Donc là, moi, je dis, je crois pas, mais bon, Reid Chaibi.
Je suis toujours autant effaré d'entendre du vomito comme ça, de la part de cette personne qui, même pour parler de sport, remet au goût du jour ces histoires de, comment dirais-je, d'immigration, de il y a trop de gens de couleur, etc. Enfin, à un moment donné, il faut juste que M. Zemmour comprenne que un sélectionneur, quand il compose sa sélection nationale pour une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du Monde, il choisit en fonction des qualités sportives et non de la couleur de peau de tel ou tel joueur. D'autant plus que au-delà de raconter n'importe quoi, il fait des comparaisons complètement, mais alors stupides, en parlant de
un peu quand même. Hein.
En parlant, en disant oui, dans ma jeunesse, il y avait à l'époque Marius Trésor, oubliant que Marius Trésor, il est français. Hein, faut pas qu'il oublie ça. Mais je j'arrive pas à comprendre en fait ce type de commentaire quand on sait que la France en demi-finale circulait, il y a rien à voir. Les tweets ou tout ce qu'on peut voir au-delà d'Éric Zemmour sur le match contre l'Angleterre où on félicite Lloris, on félicite Giroud, mais on oublie Tchouaméni, circulait, il y a rien à voir. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on comprenne que la France de 2022, c'est plus la France des années 60, l'équipe de France des années 60, des années 70, ça a évolué.
Bien sûr.
Il y a des pépites qui ne sont pas forcément, qui sont binationaux, qui ont choisi la France, qui jouent pour la France, qui mènent la France, qui l'ont menée à la Coupe du Monde, à la finale de la Coupe du Monde, qui l'ont menée même à la victoire en 98, qui l'ont menée en 2018, qui sont en passe, je l'espère en tout cas, de la mener en 2022. En entendant Éric Zemmour, franchement, je me dis, ce mec-là est vraiment capable, si la France gagne, de contester la victoire auprès de la FIFA.
Alors, Nabila Itaka, justement, on voudrait vous entendre et je salue Boula. Bonsoir, Boula. Le micro est de l'autre côté, non? Peut-être, non?
Bonsoir.
Vous avez l'habitude de la radio, quand même.
Bonsoir.
Ça va, tout va bien?
Alhamdoulilah, tout va bien.
Allez, Nabila Itaka.
Oui, Éric Zemmour, il a toujours un problème avec l'identité. Pour lui, être français, c'est être blanc. Je suis assez d'accord avec Ryan. Il a oublié qu'en fait la nationalité, c'est pas du tout une question de couleur ou de d'origine. C'est une question de. Ces joueurs sont français, hein, donc c'est. Et alors après, on focalise sur Zemmour, sur ses déclarations minables, mais on a quand même des millions de supporters qui sont très heureux de voir cette équipe de France faire leur chemin dans cette Coupe du Monde et qui supportent et peu importe les. Peu importe, enfin ils sont tout le monde est très content, je pense, de supporter cette équipe de France et qu'il faut pas donner plus d'importance que ça à quelqu'un qui a un sérieux problème lui-même déjà, je pense, avec son identité et qui en fait projette ça sur l'ensemble de la société. Les choses sont beaucoup plus simples pour les Français. Voilà.
On a la chance également d'avoir un spécialiste foot qui intervient régulièrement dans l'émission Time Sport chez Bilal Nenman. Boula, justement, comment on réagit quand on fait cette comparaison, vous savez, avec les déclarations d'Éric Zemmour sur le fait qu'il y ait 8-9 joueurs d'origine africaine? Il nous renvoie à ça. Comment réagirait un autre pays africain s'il n'y avait que des blancs? On cherche quoi, ou juste à diviser pour mieux régner? Et puis, on fait focus, vous savez, sur ces supporters marocains, et on ne retient finalement que ces dérapages et ces incidents. Boula.
Je sais pas, mais moi, tout ce que je sais, c'est que les orchestres des footballeurs, je pense que tu sens qu'il y a une harmonie entre les cultures. Tu le vois sur le terrain. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'agression. Puisqu'on parle de ce qui se passe dans la rue, mais on ne parle pas de ce qui se passe entre eux. Il y a un mélange. Et puis, je pense pas que c'est un problème. Je pense que c'est plus un problème des gens qui tiennent les médias, et comment que ça se fait qu'on lui donne un micro avec cette haine qui... Après, on se demande pourquoi l'agressivité des banlieues et des quartiers... Elle est due à ce personnage. Ce personnage, on lui donne un micro. Si on lui donne un micro, c'est que veut dire qu'il y a des responsables derrière.
Comment vous les avez trouvés? Comment vous trouvez l'enjeu qui nous attend avec cette affiche historique, d'ailleurs, Maroc-France?
C'est une affiche
exceptionnelle, hein?
Non, mais c'est une affiche de la richesse de la France qui, voilà, c'est pour moi, les hommes politiques, le monde, il est fait ainsi. Il y a plein de cultures en France. Si tout le monde pouvait... que certains pays faire comme la France avec toutes les cultures qu'il y a, je comprends pas que Zemmour, qu'est-ce qu'il vient de nous... Je vais être poli, parce que je veux pas trop lui donner d'importance, parce que si on lui donne de l'importance, on lui donne un petit peu de valeur. Mais bon, c'est un homme qui a pas du tout de valeur, il a fait 7%. Je pense qu'il y a 7% de racisme.
Nabil,
voilà.
Nabil,
je crois qu'il faut quand même faire juste attention, parce qu'on a il y a un devoir d'exemplarité, quoi qu'il arrive. Ça, c'est, j'ai entendu un certain nombre d'auditeurs, et c'est très bien, ils ont raison, sur la question des débordements. Il y a un devoir d'exemplarité. Voilà. Ensuite, sur le fait de dire qu'il y a plein de cultures en France, c'est aussi faire attention à ça. Il y a la culture française qui accueille d'autres, une diversité en fait de cultures, parce que si on commence à mettre les cultures les unes contre les autres, enfin je veux dire pas contre les autres, mais à côté,
quand je dis il y a une culture en France, je pense que les Français, ils ont pas de problème avec les musulmans. Moi, je pense que on est bien accepté par les Français. Si on doit manger le couscous avec eux, on doit. Ma mère, l'autre fois, m'a donné une assiette de couscous. Elle m'a dit, va la donner à la voisine. La voisine, c'est quoi? C'était pas une indienne.
Bien sûr, non, mais dans l'immense majorité
après,
des cas, ça se passe bien.
Nos parents, ils ont toujours eu cette hospitalité du voisin, de la voisine. J'ai grandi dans les quartiers. Je vais avoir 59 ans. J'ai pas ce problème avec les Français. On n'a pas un problème. C'est un problème politique et médiatique qui fait monter une sauce de cette haine et de ça, parce que ce qu'ils comprennent pas, c'est ce qui se passe en Belgique, il se passe le même problème. Ça veut dire qu'il y a un système derrière politique qui nous fait monter cette haine. En vérité, il n'y a pas de problème, parce qu'on l'a regardé, France 98, il y avait tous les drapeaux, il y avait même le drapeau algérien, marocain. On sent qu'on est derrière cette équipe de France. Moi, j'ai regardé le match de l'équipe de France, j'étais derrière l'équipe de France. Je veux pas, pourtant. Je suis fier de mes cultures, je suis fier de mes origines, mais je suis quand même grandi ici, je suis né ici. C'est pas Zemmour qui va me donner, qui va me donner une réflexion. Si je dois parler d'un personnage qui est né en Algérie, c'est Roger Hanin. Il a été enterré comme un chef d'État en Algérie. On n'a pas de problème avec Roger Hanin. On a un problème avec Zemmour parce qu'il nous attaque à longueur. Des systèmes politiques, mais il peut attaquer qui il veut. On n'a pas de temps à perdre avec ce mec-là, c'est tout.
Autre sujet, vous savez quoi, parce qu'il faut qu'on avance, il est 19h05, et c'est toute la une pour nous salir. Ça, c'est Mélenchon qui fustige l'interview d'Autin dans Libération. Alors, Autin, justement, Clémentine Autin et François Ruffin critiquent le manque de démocratie interne chez les Insoumis. Ça sent pas bon, hein?
C'est bien de découvrir qu'il y a un manque de démocratie au sein de ce parti, de ce mouvement.
Sauf qu'il n'est pas content, Mélenchon. Hein.
Ben oui, mais c'est son problème. Mais c'est une secte, hein, de toute façon. C'est-à-dire que toute voix dissonante, et elle le dit bien, hein, un certain nombre de personnalités qui ont été exclues de cette direction le disent. Enfin, moi, la France insoumise, de toute façon, ils me font penser à on a passé
okay.
à ce que disait Jamel Debbouze. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. C'est un peu le côté hyper paternaliste. C'est comme quand ils vont dans les quartiers, c'est on s'occupe de tout, mais toi, tu s'occupes de rien. C'est vraiment ça. Et ils font un carnage, je trouve, dans les quartiers. Et bien évidemment, ça se voit aussi au niveau de leurs instances. C'est-à-dire qu'il y a le chef, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Pas de démocratie, c'est ma vision, c'est ma ligne, et j'organise les choses pour que voilà, qu'on me laisse le champ.
Mais sauf que là, il y a une espèce de guerre interne qui commence quand même, mine de rien, Ray JB.
Elle n'est pas surprenante.
Ouais.
Elle n'est pas surprenante, puisque je pense que Mélenchon a...
On parle de problèmes de riches, on mélange tout est mélangé là-dedans.
Mélenchon a un petit peu en travers de la gorge le fait de ne pas avoir été autoproclamé Premier ministre, déjà.
Mmh.
Et puis, je pense que au sein de la France insoumise, bon, il y a quand même des voix, je dirais pas dissonantes, mais il y a des voix qui se réclament assez elles sont assez indépendantes vis-à-vis de Mélenchon. Quand on voit des personnalités comme Clémentine Autain, comme François Ruffin, comme Raquel Garrido ou Alexis Corbière, j'étais même surpris d'ailleurs de voir qu'ils ont été aussi écartés. Ça plaît pas forcément à Maître Mélenchon, qui là aussi a ses petits côtés sud-américains, ses maîtres à penser. Mmh. Donc il agit un petit peu de la même manière. Bon, ça sent un petit peu également la mainmise plus ou moins directe de Mélenchon sur la LFI pour avoir la certitude, si l'idée lui chatouille en 2026 de vouloir se présenter, d'avoir au moins une certaine facilité pour pouvoir revenir sur le devant de la scène. Mais après, quand on analyse politiquement vraiment je dirais avec un peu de recul la situation, je n'imagine pas la LFI faire tant sens tous ces acteurs là qui ont été entre guillemets mis à l'écart, Garrido, Corbière, Ruffin et Autain, parce que ça serait ouvrir une crise. Elle existe, enfin elle vient d'être ouverte, mais en tout cas je n'imagine pas qu'ils iraient jusque là. Mais s'ils le font, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est bien, ça mettra un petit peu de piment au sein de la France insoumise.
Absolument.
Il y a quand même une stratégie de renouvellement aussi chez Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il met maintenant une nouvelle garde de la France insoumise. Il voit que enfin, moi je défendrai pas ceux qui ont été exclus. Je suis pas du tout en accord avec ce qu'ils pensent, et ils sont parfois même.
Ça vous êtes allé ce soir parce que Jimmy Dalidou n'est pas en face de vous.
Ouais. Il y aurait
d'habitude c'est ce aussi, ça clash sur clash. Hein.
Parce que ça clash aussi au NPA chez lui. Hein, donc c'est entre ceux qui veulent suivre la LFI et ceux qui veulent rester indépendants. Mais voilà, je vais pas me féliciter de l'exclusion de ces gens, mais je ne vais pas non plus les regretter, parce qu'ils sont quand même aussi très agressifs.
Alors ça plaît pas à Boula quand même. Hein. Qu'est-ce
non,
que vous dites, Boula?
Ça me rappelle à l'époque, avant tu avais les communistes, où il y avait des valeurs, des règles. Mm. Ils ont composé avec les socialistes, et les socialistes ont fait beaucoup de tort. Et je pense que à l'époque de Mitterrand, il n'y a pas eu... À l'époque de Mitterrand, c'était un petit peu... C'était divisé pour mieux régner, c'est pareil. Et aujourd'hui, tu as le même problème. En tout cas, c'est pareil. Socialiste et Mélenchon, pour moi, c'est strictement pareil. C'est pour ça qu'il y a pas mal de
pareil, pareil. C'est pour ça que... Ne mélangeons pas.
Au niveau finesse, c'est pareil.
Qu'ils changent leur communication, parce que là, pourquoi il fait ça aussi, c'est que
ça fait un moment qu'ils doivent le changer, parce que
ils enchaînent
quand même polémique sur polémique là en ce moment.
Monter l'extrême droite
depuis cet été, hein.
À force de taper sur le gouvernement, de taper sur le système, de taper sur tout, sur les médias, sur la justice, sur la police, ils tapent sur tout, la France insoumise. Et en fait, ils se rendent compte qu'en fait c'est l'extrême droite qu'il faut monter, c'est même pas eux
Mais au début, qui c'est qui les a fait monter? C'est Mitterrand qui les a fait monter.
Donc ils sont en train de renouveler les têtes pour faire oublier tout.
Oui, mais à l'époque,
c'est Mitterrand qui les a fait monter le Front
National. Sans vouloir faire trop de rebonds historiques.
Enfin, right,
moi, je suis assez fan de politique par nature et d'histoire de surcroît. Parfois, j'adore regarder les hommes politiques d'avant, plus de ta génération pour le coup, parce que je suis quand même relativement jeune. Mais quand je vois qu'on est passé de Georges Marchais, Charles Fitterman, Robert Hue, Marie-Georges Buffet à ce qu'on a là aujourd'hui,
C'est pour ça que je mets. Il y avait plus un côté famille à leur époque, à leur valeur. Parce que nos parents, quand ils sont arrivés, t'avais vraiment les communistes qui ont été très très proches sur le système social, sur les systèmes éducatifs, dans les banlieues, dans l'éducation, c'était un peu plus sévère, on respectait plus les profs, tout ça. Mais ce système derrière.
Vous là, le voilà nostalgique.
Ce système Mitterrand, je pense qu'il nous a fait beaucoup, beaucoup de mal. C'est peut-être aujourd'hui qu'on se retrouve dans cette situation au niveau politique. C'est pour ça. Après, moi, c'est mon point de vue.
Non, il y a aussi quand même beaucoup d'avancées. Il y a quand même beaucoup d'avancées aussi, beaucoup de droits qui ont été accordés. Le RMI, c'est sous Mitterrand. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été des avancées sociales aussi qui sont passées. Je pense que tout n'a pas été parfait. Mais on peut pas tout mettre en fait sur le compte de la présidence de Mitterrand. Il y a certainement eu des erreurs.
Non, ce serait un peu trop facile.
Quand tu regardes au niveau politique, quand tu regardes le système Chirac, quand il y a eu le problème en Irak ou quoi que ce soit, il a eu le courage aujourd'hui politiquement avec les cultures qu'il a en France et les rapports qu'il a en Afrique et les rapports qu'il a au Maghreb, dans les pays arabes, il a eu cette réflexion de ne pas faire la guerre. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un système où il y a une agressivité.
Ça, c'est le Chirac de la guerre en Irak. Mais il y a aussi le Chirac, le bruit des odeurs. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus complexe à chaque fois. Donc, on ne peut pas réduire, je pense.
Quand tu parles des odeurs, après, il y a des choses qu'on peut améliorer aussi.
Ouais. Hein. Je vais ouvrir l'antenne. Vous savez quoi, avant de marquer une pause, justement, je vais accueillir Nordine. Nordine, bonsoir, qui nous appelle.
Bonsoir.
Depuis les bouchons de l'A86. C'est Anthony qui me dit ça. C'est ça?
Exactement. Bah oui, c'est dans une taxi, je suis dégoûté, je peux pas rentrer dans ce soir, je suis dégoûté.
Eh bien écoutez, prenez votre mal en patience, mais surtout, on est là pour vous accompagner. Nordine, on vous écoute, oui. Nordine.
Bah, vous êtes en train de parler d'Éric Zemmour, mais cette personne, faut pas lui donner l'importance. Faut arrêter d'en parler, c'est parce que, bon, d'un côté, on est en train de fêter la victoire du Maroc qui va en demi-finale, qui va affronter la France, et de l'autre côté, on donne de l'importance à Zemmour, qui dit à une certaine partie de la population française ce qu'ils ont envie d'entendre. Faut pas lui donner d'importance à cette personne, parce que lui il en parle, vous en parlez, et quand les jeunes ils en parlent, et quand les jeunes ils entendent ça, et ben comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ben ils se sentent rejetés, ils ne se sentent pas acceptés, et c'est pas bon pour le moral des jeunes, parce que les jeunes c'est la relève, c'est eux qui vont nous suivre après, et c'est pas que je suis contre, mais faut éviter d'en parler, au contraire. Il faut donner des exemples à suivre. Faut parler d'autre chose.
Vous êtes d'accord avec Boula? C'est Boula qui disait ça.
De quoi? Il avait dit quoi?
Il parle comme vous.
Oui. Ah oui, ben, bien sûr. Je sais pas si vous vous rappelez le film Stalingrad avec Ed Harris. Ouais. À un moment donné, les militaires russes ont tiré sur leurs troupes lorsqu'ils revenaient. Eh ben non, il faut donner des exemples à suivre. Ça redonnera du moral.
On l'a perdu, il est dans les bouchons de 86. Et c'est comme ça, voilà, c'est le direct. J'en profite pour marquer une pause. Et on se retrouve juste après, justement, avec nos débatteurs influenceurs. On va parler de l'enjeu d'Éric Ciotti, qui est à la présidence désormais des Républicains. Mais surtout, les déçus vont aller où? On vous posera la question, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
Eh bien les informés, c'est avec Nabil Aitakash, Les informés avec Rayed Chaibi et Boula qui est avec nous, qui va retrouver Bilal Nedman tout à l'heure dans une poignée de minutes dans Time Sport, 19h30, spécial Coupe du Monde, direction donc Doha avec tous les commentaires décryptage. Messieurs, tout de suite, nous allons finir cette émission avec un ou deux sujets encore, Renaissance, Horizon, et bien figurez-vous, potentiellement, ils peuvent s'arracher déjà les déçus LR, les Républicains. Parce que figurez-vous que Éric Ciotti, est-ce qu'on peut considérer qu'il est propulsé à la présidence des Républicains, Nabil Aitakash?
Sur les déçus, je pense qu'ils étaient déçus déjà avant le deuxième tour. C'est-à-dire que les gens qui sont déçus et qui vont aller ailleurs sont des gens qui ne sont pas du tout dans cette ligne dure, de la droite dure, qu'incarnent Ciotti et Retailleau. Voilà, donc est-ce qu'il s'est arrogé la victoire? Voilà, c'est une ligne au sein de la droite française. qui va.
Quel enjeu pour Éric Ciotti? C'est quoi? C'est une droite plus populaire, une droite.
Non, c'est de préparer.
Ferme,
c'est
avec préparer beaucoup d'autorité, de fermeté.
C'est de préparer la candidature de très certainement de
Laurent Wauquiez.
Donc voilà. C'est,
vous pensez?
Voilà. Je n'arrive pas à comprendre encore exactement quel est l'objectif de M. Ciotti. Je dois dire que je ne le vois pas. À part,
vous le voyez
à part,
pas.
À part cet horizon de 2027 qui est de préparer la candidature de Wauquiez.
Arrête, JB.
Bah, ce n'est pas la victoire qu'il espérait. Parce que,
il n'a pas triomphé, c'est ce que vous voulez dire.
Ce n'est pas un triomphe, puisqu'il n'y a que 5000 voix d'écart qui sépare Éric Ciotti de Bruno Retailleau. Ce qui veut dire, comme le dit Retailleau, il pèse 47%. Et donc, Éric Ciotti ne pourra pas forcément faire tout ce qu'il a envie de faire. Et d'ailleurs, je me demande même si la question, ce sujet-là d'imposer Wauquiez comme candidat naturel de la droite en 2027, est-ce que ça ne va pas finalement poser problème? Est-ce qu'il n'y aura pas forcément, enfin, est-ce qu'il n'y aura pas un grain de sable je dirais, dans son projet? Mais en tous les cas, au-delà de ça, c'est incontestablement l'image d'une droite très droitière, d'une droite extrême.
Avec Éric Ciotti.
Avec Éric Ciotti, mais j'ai envie de dire que ce soit avec Bruno Retailleau ou Éric Ciotti, c'est bonnet blanc et blanc bonnet.
C'est exactement la même chose, c'est la même ligne. Hein.
Faut pas se leurrer.
Avec qui?
Exactement. Ah, bah, entre les Bruno deux. Retailleau et Éric Ciotti, c'est la même chose. Oui. La différence qu'il y avait entre les deux, c'était fondamentalement, c'est la question de la candidature en 2027, puisqu'il y en avait un qui était plutôt dans l'idée de se dire, on construit d'abord le corpus idéologique et après on choisit le candidat, tandis que l'autre c'était je veux imposer Laurent Wauquiez. Et d'ailleurs j'ai bien aimé la phrase de Stéphane Séjourné en disant qu'il n'était pas candidat à la présidence des LR, mais il était candidat pour être directeur de campagne de Laurent Wauquiez. C'est cruellement juste. Donc voilà. Après on voit bien que même si ça avait été préparé avant, mais un certain nombre d'élus maintenant ont commencé à quitter les LR, c'était déjà le cas.
Pour aller où d'ailleurs? Renaissance, Horizon,
de
Laurence
Arribagé récemment.
Chez qui?
Le maire de Metz et puis le président du conseil départemental de Lyon.
J'ai simplement envie de dire que chez vous d'ailleurs, chez Renaissance.
Et ça va même poser problème aussi au niveau du groupe parlementaire, parce que il y a quand même aussi une frange des LR au Parlement qui est plutôt dans une démarche progressiste, européenne, ancrée dans les territoires. Ils seront le bienvenu à Horizon s'ils souhaitent contribuer avec nous.
Boula, comment vous vivez cette élection justement? Est-ce qu'il risque d'y avoir un enjeu? Comme dit finalement Ryan Chebi, c'est vrai, est-ce qu'il y a un enjeu? Et puis finalement.
Les deux personnages, ils n'ont aucun charisme de la politique.
Ouais.
Tu sais, moi j'ai connu.
Faut être charismatique pour être président.
Non, mais chez les Républicains, la droite, j'ai connu des mecs comme Juppé. Ils avaient du charisme.
Ça, c'est sûr.
Ils avaient du charisme. Quand je vois Édouard Philippe, après, il était obligé de partir, il pouvait pas faire autrement. C'était trop. Au niveau de son image, allant jouer un coup. Tu sens que le mec, il veut apporter un plus et une réalité, une vérité. Tu le vois dans la gestion de la mairie du Havre. Je sais pas, moi, tu prends des mecs comme Ciotti, ils ont fait quoi en politique dans une ville? Ils ont rien fait.
Puis surtout, la réalité, c'est que les Républicains de l'époque, même avant l'UMP de l'époque, c'était 200 000, 300 000 adérents.
Adhérents, c'était
toujours.
Aujourd'hui,
ils en sont à 91 000 d'après. C'était les chiffres arrêtés.
Ça soulève des questions quand même.
Ça soulève des questions.
C'est vrai.
Ce sera intéressant de voir qui ont voté, quelle est la sociologie des gens qui ont voté. Puis, je pense que c'est un peu devenu un parti de seniors.
Avec ce que vient de dire Boula, est-ce que finalement le visage de la politique n'a pas changé? Parce que Boula fait cette comparaison avec les ténors, les poids lourds. On fait référence à Juppé, Poisquoi et tous ces gens. Finalement, est-ce que cette nouvelle génération n'est pas un autre visage de la politique?
Parce que c'était un autre monde. C'était un mec qui, même dans le monde Afrique, dans le monde arabe, il avait un poids. On le respectait. Il y a un mec.
Ou de Villepin, par exemple. Hein.
Même de Villepin, c'était un grand monsieur. C'était des messieurs de la politique. Aujourd'hui, t'as l'impression que c'est. Après, ces hommes politiques qui sont dans le système de ce qui se passe dans les quartiers, dans les banlieues. C'est l'image que rejettent ces mecs-là. Même les embrouilles qu'il y a eu entre eux, quand tu vois. Valérie Pécresse, tu sens qu'il n'y a pas une harmonie.
Rapidement. Une harmonie, allez-y.
Il n'y a pas une harmonie politique dans le bon sens de la politique.
Nabil Aitakash.
Enfin, les Républicains, c'est un parti quand même qui est bonapartiste. Et s'ils n'ont pas de chef, ils ne savent pas fonctionner. Donc il n'y a aucun chef qui a été. Depuis Sarkozy.
Depuis Sarko.
Depuis Sarkozy, personne ne s'est imposé. Donc voilà, ils ne savent pas faire autrement. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent avec des Pécresse.
Comme disait Chirac, un chef s'est fait pour cheffer. Malheureusement, il n'y en a plus aujourd'hui. Mais la grande différence, c'est qu'à l'époque, il y avait une volonté nette de mettre une séparation claire entre les Républicains et le Front National de l'époque. Aujourd'hui, les digues volent clairement en éclats. Surtout quand on a entendu Ciotti qui disait qu'entre les deux tours de la présidentielle, il préférait voter pour Zemmour. Ça, faut pas l'oublier, notamment pour celles et ceux qui se posent la question de quitter les Républicains et qui sont plutôt d'une tendance autre que celle de la ligne de Ciotti.
Merci,
après,
messieurs.
Après, c'est les
Merci
gens qui votent, faut savoir à qui ils vont voter. Aussi.
Exactement. Voilà. Vous, Boula, vous restez avec Thème Sport. Merci, Nabil Aitakash, président, le représentant de Renaissance dans le 93. Merci également au président de l'association de la coopération franco-tunisienne. Vous aviez un message.
Tout à fait. Je voudrais saluer mon très grand ami et collègue Nadir Ouarti de Drancy. Et Nanou, grosse bise à toi. Et
fidèle auditeur.
Pour ce que tu fais. Très fidèle auditeur.
Oh, Nadir, fidèle auditeur qui m'apprécie. Eh bien, on vous embrasse. Et merci pour votre fidélité, mon cher Nadir. Ça, c'est surtout à ne pas manquer. Tout de suite, 19h30 jusqu'à 21h. Ah, Time Sport, bonsoir Bilal Nedman.
Bonsoir les auditeurs,
quel
bonsoir
le programme
Adil, l'équipe.
J'imagine.
Le programme c'est quoi? C'est spécial Maroc tout au long de la semaine, c'est ça?
Eh oui.
Vraiment, on va parler du Maroc, la première nation africaine en demi-finale, d'une phase finale de Coupe du Monde. Et aussi on va parler d'un certain Didier Deschamps, craintif, en affrontant peut-être les Lions de l'Atlas.
Exactement.
Voilà.
Alors on peut l'annoncer aux auditeurs depuis tout à l'heure, je le dis, à 18h, émission spéciale à tes côtés, à mes côtés aussi, à partir de 18h sur l'antenne, émission spéciale pour commenter, pronostiquer, bref, tout, mettre l'ambiance avant le 20h, le coup d'envoi,
c'est ça.
Avec Bilal Nedman.
Et voilà.
Nous allons co-animer ensemble.
On va voir des personnes,
c'est une première.
Des supporters et aussi des personnes qui, voilà, les observateurs du football au sein même de cette émission.
Avec peut-être Gad Elmaleh qui sera avec nous.
Ah ben voilà, super. Voilà, comme ça on va bien délirer.
Parce que t'as entendu sa déclaration
sur
RMC, chez nos confrères. T'as vu ce qu'il a dit
Il est bas. Il n'y a pas que lui, il y en a plein.
Tout le pot autour du pot, il dit carrément, le Maroc est en finale, ça y est.
Il y en a plein. Il y en a plein. C'est vrai.
Je sais que Bilal Nedman, là, il est chaud. Bilal Nedman a retrouvé dans une poignée de minutes. Allez, à demain, avec autant de plaisir. Merci à la réalisation, c'était Anthony. Et aux nombreux auditeurs, parce que vous êtes grave nombreux. Mais ça fait chaud au cœur. Et je vous en remercie infiniment, parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. À demain avec autant de plaisir, mais surtout,
on ne lâche rien.
Voilà, c'est dit.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.